Ce week-end, France Culture célèbre à sa façon les 50 ans de mai 68. Pendant deux jours, nous vous donnons rendez-vous au Centre Pompidou à Paris et en direct sur l'antenne pour la troisième édition du festival Imagine, aujourd'hui et demain, avec deux marathons radiophoniques, quatre masterclass, un concert, des ateliers et de nombreuses émissions. En ouverture de ce week-end exceptionnel, nous avons le plaisir de recevoir un intellectuel militant au parcours disparate, ce sont ses propres mots, professeur en Cagne, en classe préparatoire littéraire, Assaut, fondateur, cofondateur même de la revue Vacarme, dont il a été le rédacteur en chef pendant plusieurs années, militant d'ACT UP entre 90 et 2003, une expérience qu'il a utilisée pour coécrire le scénario du film multiprimé de Robin Campillo, 120 battements par minute. Il est aussi le grand invité de la parole au Centre Pompidou toute l'année. J'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Mangeot. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci. L'invité de la parole, c'est quelque chose qui vous va bien, Philippe Mangeot. Vous êtes un homme de parole.
C'est drôle parce que je personne ne sait très bien comment me nommer. Est-ce que je suis un compagnon pour l'année du Centre Pompidou? Est-ce que je suis l'invité de la parole? Est-ce que je suis l'intellectuel associé? Toutes les nominations ont bougé. En vérité, invité de la parole me plaît assez. Ne serait-ce que parce que je crois que c'est dans la parole et dans la parole improvisée que peuvent naître les idées. On est bien à la radio ici.
Oui, et d'ailleurs, justement, je vous laissais finir pour voir si on allait improviser nous-mêmes et de voir ce qu'il allait sortir de cette improvisation discutée et parlée. Jean-Marc Scolard, le responsable du service de la parole du Centre Pompidou, parle de vous comme d'un intellectuel de l'agir. Encore une autre étiquette. Mais qu'est-ce que ça voudrait bien dire?
Oh, je pense que c'est une étiquette par défaut. C'est-à-dire que quand Jean-Marc est venu me voir, il m'a dit, il m'a proposé comme ça d'être l'invité de la parole pour toute l'année. Et je lui ai dit, tu sais, je n'ai pas d'œuvre. Et c'est vrai, j'ai pas écrit de livre, je suis pas auteur d'essais, j'ai participé à un certain nombre de livres, mais s'il y a quelque chose qui ressemble à une œuvre chez moi, si tant est qu'on puisse dire une œuvre, c'est dans un parcours qui va des aventures militantes à la coécriture d'un film, à la fondation d'une revue, vous en parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une œuvre sans œuvre, c'est une œuvre désœuvrée, on pourrait dire ça comme ça. Alors je pense que Jean-Max Collard a traduit ça en intellectuel de l'agir, parce que je pense que les idées se trouvent dans l'improvisation de la parole, elles se trouvent aussi dans les expériences d'action.
Philippe Mangeot, je commençais en disant que nous célébrions à notre façon sur France Culture, c'est les 50 ans, nous commémorions les 50 ans de mai 68 avec un week-end exceptionnel de table ronde, de rencontres et de paroles improvisées également. 68, ça évoque quoi pour vous ?
Alors, je fais pas partie de la génération qui a fait 68. Je suis un héritier de 68. Ça évoque tout ce dont j'ai bénéficié, en vérité. Tout ce dont j'ai hérité. Et finalement, il me semble que l'intégralité des combats politiques que j'ai menés, notamment sur le terrain des politiques de la sexualité ou des politiques de santé, avec cette idée très forte qu'on pouvait faire de la politique en première personne, qu'on pouvait penser depuis son expérience, tout ça, c'est des choses qui sont très largement nées en 68. Et dont je porte l'héritage. Après, il y a une autre façon d'envisager les choses. Ça n'est pas sans rapport avec ce que je propose au Centre Pompidou. 68, c'est aussi la génération d'avant. Et c'est un mouvement qui a été fait par des gens qui avaient des comptes à régler avec la génération précédente, la génération des résistants, en un sens. Et je dois dire que cette génération-là ne nous a pas très bien accueillis politiquement. Elle nous a sans cesse fait savoir qu'ils avaient fait la révolution et que nous n'étions de cette révolution qu'une pâle copie.
Ou qu'il ne nous restait rien.
Ou qu'il ne nous restait rien, sinon la société de consommation.
L'individualisme.
Et l'individualisme. Ce que je ne crois pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on m'a demandé comment je pouvais m'inviter dans le cadre des commémorations de 68 au Centre Pompidou, j'ai proposé un sujet assez contre-intuitif, puisque je travaille sur les passions. J'ai proposé de réfléchir avec des militants d'aujourd'hui, avec Bassem Yousri, qui a documenté la révolution égyptienne, et avec Romain Goupil, qui est évidemment un militant lycéen de 68, j'ai proposé de réfléchir sur les passions tristes dans les mobilisations politiques. C'est-à-dire tout ce qui vient abîmer la joie des soulèvements. Par passion triste, j'entends l'amour du chef, la focalisation exclusive et mortifère sur les structures, le soupçon de trahison et la méfiance à l'égard de ceux qui suivent.
Et ça, ce sera le magazine parlé du 2 mai, c'est-à-dire dans quelques jours à venir, qui fait suite, donc, Philippe Mangeot, à trois autres séances de votre observatoire des passions, donc, que vous avez mis en place pour le Centre Pompidou. C'est un drôle d'événement. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, observatoire des passions?
Alors,
c'est une sorte d'exploration des passions contemporaines, vous diriez ça?
C'est une exploration des passions contemporaines ou en tous les cas une sorte de laboratoire à ciel ouvert qui essaye de rassembler des fragments d'un discours passionnel d'aujourd'hui. Alors d'où ça vient cette idée? Je disais tout à l'heure que les idées naissaient dans la parole, elles peuvent naître aussi dans l'intervalle, l'intervalle entre différentes expériences. Première expérience... Il m'est arrivé de travailler dans le cadre professionnel sur les traités des passions à l'âge classique. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on pense l'homme dans ses déterminations socio-économiques. À l'âge classique, on pensait l'homme dans ses déterminations passionnelles. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il était le jouet des passions. Donc on a changé d'anthropologie, vraiment. Ce qui donne au traité des passions, qui répertorie comme ça des passions tristes, des passions gaies, des passions énergiques, des passions vitales, la joie, la colère, l'amour, etc. Un tour à la fois un peu désuet et assez passionnant.
Mais ça veut dire que vous avez la nostalgie de cet âge classique des passions?
Non, j'ai aucune nostalgie.
C'est pas forcément un gros mot, la nostalgie.
Non, c'est pas du tout une nostalgie, mais ça m'a au moins, en tous les cas intellectuellement, permis de comprendre ce qui se jouait dans les romans du 17e, du 18e que je pouvais lire, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai été frappé par le fait que, dans le champ des sciences humaines, on observe, de même qu'il y a eu, il y a une vingtaine d'années, un tournant linguistique, on observe une sorte de tournant émotionnel, c'est-à-dire de retour à la question des émotions qui permettent de contester la rationalité économique, d'interroger la question de l'agir du soldat dans la guerre, je parle du travail des historiens, de poser la question de ce qui se joue dans la lecture, enfin bref...
C'est vrai pour la réflexion démocratique, un récent livre dont on a parlé, d'ailleurs qu'on a évoqué la semaine dernière dans l'idée culture de Loïc Blondiot, du sociologue Loïc Blondiot, s'intitule « La démocratie des passions ».
Exactement.
C'est vrai, des émotions, pardon. C'est vrai aussi en géopolitique avec
Absolument.
Les de Dominique Moisy, c'est vrai
si
dans la justice.
Si vous regardez Frédéric Lordon qui travaille aussi sur les passions, si vous regardez deux livres qui viennent de sortir qui sont éventuellement discutables, le livre de Ehrenberg qui s'appelle La mécanique des passions, le livre de Maggiori et de Casiraghi qui reprend une forme assez classique de traité des passions, il se passe quelque chose dans le champ de la réflexion et dans le champ des sciences humaines.
Et c'est ça que vous interrogez?
Je veux interroger les raisons pour lesquelles les raisons de ce tournant passionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une façon de prendre ses distances à l'égard des grands paradigmes par lesquels on avait pensé l'agir humain dans les années qui avaient précédé, hein, le paradigme marxiste, le paradigme freudien, par exemple, les pulsionnels, ou est-ce que c'est autre chose qui se joue et comment on peut articuler ces paradigmes ensemble? Ça, c'était la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est l'articulation des trois, dans ce triangle-là qui est née l'idée de fabriquer un observatoire des passions. La troisième chose, c'était ma propre pratique du net. Pour la première fois, sans doute dans l'histoire de l'humanité, même si c'est un peu pédant et grandiloquent de dire ça comme ça, chacun d'entre nous dispose à portée de clic d'une archive et d'un terrain d'expérimentation de l'intégralité des passions humaines. Et là, il y a quelque chose d'absolument sidérant, d'absolument fascinant, qui oblige à réfléchir à la question de savoir ce qui se joue dans ce nouvel instrument et qui invite à se demander si on pourrait écrire un traité des passions pour aujourd'hui.
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have
have a ball. If that's all there is. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads.
Ce qu'on entend là, Philippe Mangeau, c'est un premier choix musical que vous nous avez fait, que vous avez proposé. C'est Peggy Lee. Is that all there is? Pourquoi donc?
Ah, c'est merveilleux de se réveiller comme ça, non?
Déjà, oui, ça c'est vrai.
Bah, écoutez, c'est un petit fétiche portatif pour moi. Je sais pas d'ailleurs dans quelle mesure ça a à voir avec les passions. C'est la chanson qui est venue depuis des années. Figurer ce que j'appelle, pour une raison un peu particulière, parce qu'il m'est arrivé d'écrire là-dessus dans la revue Vacarme, la gracieuse philosophie.
Votre petit projet
intellectuel, disons. Oui, qui est mon petit projet intime, comme ça. Et dont, en un sens, on pourrait considérer que l'un des représentants est quelqu'un qui est mort il y a peu de temps, qui était Clément Rosset. Cette idée que le réel, si on le saisit dans ce qu'il est à la fois absolument tragique et résolument joyeux.
Ce qui est le cas, je pense, donc, de votre observatoire des passions, Philippe Mangeau, placé donc sous la haute tutelle de Peggy Lee et aussi de Stendhal, puisque quand on ouvre les petits documents qui figurent sur le site du Centre Pompidou à la page de l'Observatoire des Passions, on peut lire cette citation de Stendhal, de Philosophia Nova. La seule science que j'ai à apprendre est la connaissance des passions. Faire un cahier où elles auront chacune leur place, y rassembler les notions que j'aurai sur chacune d'elles, ou les indications des lieux où je pourrais les trouver. Cela pourrait figurer aujourd'hui, effectivement, sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous le disiez,
mais
c'est la grande nouveauté.
Mais Stendhal écrit par ailleurs dans un contexte où il a le sentiment que les passions sont socialement, politiquement arasées, et qu'il faut en un sens les sauver. Il faut sauver la joie, il faut sauver l'énergie, et il faut aller chercher les passions là où elles sont. Ce que je crois aussi, alors après... On est dans un régime passionnel un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est à la fois les héritiers de ce romantisme-là, de l'idée qu'on se trouve dans les passions, et puis du classicisme, de l'idée qu'on se perd dans les passions. Et précisément, je crois que ce qui m'intéresse comme définition provisoire, comme ça, j'ai suggéré que la passion, ça puisse être la stylisation d'une addiction. C'est-à-dire le consentement à son altération et la ressaisie de soi dans cette altération même. C'est à titre d'exemple, la semaine dernière, j'ai invité un usager de drogue, c'est-à-dire quelqu'un qui a un rapport passionnel et non addictif à la drogue et qui a réussi à vivre avec ce rapport-là, précisément parce qu'il en a fait l'objet d'une construction de soi, un peu à la manière dont, à l'époque où les drogues n'étaient pas pénalisées ou criminalisées comme elles le sont aujourd'hui, un certain nombre d'artistes, comme Michaud par exemple, en ont fait l'objet d'un travail et d'une réflexion sur le rapport entre altération de soi et invention de soi. Et en un sens, c'est peut-être ça qui m'intéresse dans les passions. J'ai invité la fois d'avant une marathonienne, par exemple. Et là, je m'intéressais à une passion dont je me sens très loin, justement, parce que s'il y a un sport qui m'est étranger, c'est la course. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est cette espèce de consentement à la souffrance, de jouissance extraite de l'extrême souffrance dont elle témoignait avec une très grande justesse, par ailleurs. Et cette articulation-là, tous parlent de shoot, en fait, et pas seulement pour les drogues. Cette articulation-là m'intéresse. Il se pourrait bien, d'ailleurs, puisque vous parliez de 68 tout à l'heure, il se pourrait bien, d'ailleurs, qu'il y ait quelque chose de ça dans toute espèce de mobilisation politique.
Et aujourd'hui, on en voit peut-être un renouveau, pas seulement dans les sciences sociales, pas seulement dans les livres dont on parlait tout à l'heure, qu'on évoquait tout à l'heure, Philippe Mangeau, mais effectivement, tout simplement dans la rue, aujourd'hui. Est-ce que les différentes luttes qui émergent, environnementales, on voit Notre-Dame-des-Landes, sociales, avec les services publics, les migrants également, sexuels, avec le mouvement MeToo, démocratique, avec ces luttes à la fois contre les nationalismes ou contre les capitalismes. Est-ce que ça, c'est une forme de renouveau des passions qui se traduisent par des mobilisations de différentes formes aujourd'hui ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une vivacité politique, mais d'un point de vue strictement passionnel, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je crois qu'il y a un désir très très fort, d'abord de se retrouver dans quelque chose.
De se retrouver collectivement.
Collectivement, et de se retrouver dans quelque chose qui est plus grand que soi. Et où on est en quelque sorte, enfin je parlais d'altération tout à l'heure, où on devient soi-même plus grand que soi. Il se pourrait bien d'ailleurs que mon intérêt pour les passions, il se soit noué pour moi dans ma propre expérience politique.
En particulier à ACT UP, qui a
vraiment été un moment où je me suis découvert des puissances. C'est-à-dire que je crois que les mobilisations politiques sont des moments d'augmentation des puissances d'agir considérables, pour parler comme Spinoza. Et c'est à l'aune, alors est-ce que c'est parce qu'il y a cet observatoire des passions ? Je crois que c'est à l'aune de ça qu'on peut interroger, questionner la répression des mobilisations politiques telles qu'on peut l'observer aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai été, quant à moi, sidéré. Quoi qu'on puisse penser par ailleurs, par la violence avec laquelle la ferme des Sans Noms a été détruite à Notre-Dame-des-Landes, par ce qui est opposé aux étudiants qui occupent leurs établissements universitaires, alors qu'on sait bien, tous les gens qui ont participé à une mobilisation politique savent bien ce qu'il y a de formateur dans l'exercice et l'expérience de cette passion citoyenne.
Mais certains pensent qu'on n'est pas obligé de bloquer un endroit ou d'occuper un lieu pour discuter, se retrouver, discuter politiquement, Philippe Mangeot, ce qui explique la répression policière du gouvernement.
Il faut parfois bloquer pour qu'un déblocage soit pensable et qu'il n'est pas exclusivement policier. Ce que je crois vraiment, c'est-à-dire que de la même façon, à la ferme des Sans Noms, il y avait peut-être un statut à trouver, un statut spécifique à trouver à Notre-Dame-des-Landes. Le risque, évidemment, quand on arrase des passions joyeuses, le risque, c'est que on ne laisse de place qu'aux passions les plus tristes, aux passions les plus mortifères, ou à celles qui ne trouvent à s'exprimer que dans une consommation balisée, à moins qu'on ne nous donne à admirer que la passion exclusive du chef pour lui-même.
Philippe Mangeot, quel est le rôle des passions précisément, alors à l'âge classique ou à l'âge moderne, les deux d'ailleurs, dans les soulèvements et dans les luttes? Vous revenez de Tunisie, je crois,
oui.
Et vous y avez vu quelque chose de très fort, de très important, de ce point de vue-là.
Alors j'étais invité pour accompagner 120 battements par minute, que j'ai coécrit, le film de Robin Campillo, qui n'a pas de visa d'exploitation là-bas, et donc qui était projeté non pas de façon clandestine, mais de façon avec l'autorisation
non officielle, vous voulez dire, oui.
Donc c'était officiel sans être officiel, et les associations gays, lesbiennes, trans ont demandé à l'Institut de France de les héberger pour 3 jours de discussion, de travail, avec des ateliers fermés, ce qui permettait de les protéger, dans le cadre de leur lutte pour la décriminalisation de l'homosexualité et pour l'arrêt immédiat des tests anals par lesquels on est censé identifier les homosexuels, ce qui est d'une violence terrible, c'est un viol institutionnel, hein. Et une fois de plus, j'ai été sidéré d'abord par l'intelligence de ce que j'entendais, ce qui vient confirmer la conviction que j'ai que je crois fondamentalement dans l'égalité des intelligences, et je crois fondamentalement qu'il y a des occasions qui permettent aux intelligences de se trouver, de s'exprimer, et les occasions politiques le sont très souvent. Ces gens mènent un combat extraordinaire, c'est nos frères, et il faut évidemment les soutenir.
Philippe Mangeot, on vous retrouve dans 2 minutes, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 7h30 sur France Culture. Et les titres sont présentés par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Un geste pour tenter de calmer la grogne des usagers. La SNCF va rembourser aux abonnés du réseau TER la moitié du coût de l'abonnement pour le mois de juin. Est-ce que c'est à la hauteur des responsabilités de l'entreprise dans ce conflit social ? Nous nous poserons la question dans notre journal de 8h. Le syndicat Force Ouvrière a un nouveau patron. Il s'appelle Pascal Pavageau. Il vient de la fonction publique et il promet de durcir le ton face au gouvernement. Une manière de rompre avec 14 années de Jean-Claude Mailly à la tête de FO, jugé trop modéré et qui a dénoncé hier l'hypocrisie, la duplicité de son successeur. Eux se sont promis la paix et la dénucléarisation. Les dirigeants des deux Corées sont repartis chacun de son côté de la frontière après le sommet historique d'hier. Dans une demi-heure, nous retournerons à Séoul où la presse du Sud salue la formidable réussite de Kim Jong-un en matière de communication. Angela Merkel reçue plutôt froidement à la Maison-Blanche. La chancelière allemande est repartie de Washington avec bien peu d'avancées sur les dossiers diplomatiques chauds du moment. Sur l'accord nucléaire iranien, Trump assure qu'il ne laissera pas Téhéran fabriquer des armes atomiques. À quoi Merkel répond que l'accord de Vienne n'est pas suffisant et qu'il faut faire plus. En Arménie, Nicole Pachinian entretient les braises de la contestation face au refus du parti au pouvoir de négocier avec lui. Le meneur de la contestation populaire arménienne mobilise ses soutiens loin de Yerevan. Reportage à 8h. Enfin, il ne manque plus que les barricades et les pavés qui volent pour les 50 ans de mai 68. Emmanuel Laurentin nous propose une promenade géolocalisée dans le quartier latin avec les archives sonores de l'époque dans les oreilles. C'est l'une des nombreuses propositions du festival Imagine mai 68, co-organisé ce week-end par France Culture et le Centre Georges Pompidou.
Ben moi aussi, je vais faire quelques annonces alors à suivre et d'ici. Oui. Le journal des 8h à 7h40, la fabrique médiatique sur les journaux comme reflet des fractures françaises avec Alexandra Schwarzbrot de Libération et Eugénie Bastier du Figaro. Et dans un instant, la suite de notre entretien avec l'inclassable Philippe Mangeot.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le Centre Pompidou vous invitent à partager la troisième édition du festival Imagine, les 28 et 29 avril. Culture, création, vie des idées, l'esprit de mai soufflera sur l'événement. Qu'est-ce qu'a changé mai 68? Un week-end de marathon radio, masterclass, concerts, ateliers, performances, entrée libre. 1968-2018, l'esprit de mai, à vivre au Centre Pompidou, les 28 et 29 avril. Plus d'infos, franceculture.fr, centrepompidou.fr et sur les réseaux sociaux avec hashtag WEImagine.
Et on vous retrouve, Philippe Mangeot. Philippe Mangeot, vous êtes à la fois professeur de lettres, acteur, militant, co-scénariste de films, homme de parole, de dialogue, d'échange et bien d'autres choses encore. Heureusement qu'on ne peut pas s'arrêter à une seule étiquette. J'aimerais quand même qu'on revienne dans ce deuxième temps de l'entretien avec vous sur votre expérience à la fois ACT UP, dont expérience, je le disais tout à l'heure, dont vous avez tiré un film puisque vous avez coécrit le scénario 220 battements par minute, le film de Robin Campillo. Est-ce que vous diriez déjà qu'une expérience comme celle d'ACT UP serait encore possible aujourd'hui ou il manque quelque chose pour que ça prenne vraiment?
Je crois que vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel, la différence entre ce qui est montré dans 120 battements par minute, c'est-à-dire ce qui raconte l'ACT UP que j'ai connu.
Donc des années 90.
Donc des années 90. Et aujourd'hui, c'est l'apparition du net, et c'est l'apparition des forums, et c'est des formes de discussion électroniques. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'aurait plus, sans doute, et je le dis sans nostalgie, hein, je le dis simplement en observant une différence fondamentale, on n'aurait plus la nécessité de se retrouver chaque semaine. Or, je le dis sans nostalgie, mais j'ai observé néanmoins dans les débats qui ont suivi les projections de 120 battements par minute, une forme de mélancolie à l'égard de ce moment où pour discuter, il fallait se voir. Et pour échanger du savoir, il
même
fallait
pour s'engueuler aussi. Hein.
Et même pour s'engueuler, et particulièrement pour s'engueuler, dans la mesure où je reste persuadé que rien n'est plus violent qu'une engueulade sur un forum électronique. Ça peut être absolument définitif, alors même que quand on s'engueulait à ACT UP, on s'engueulait vraiment, et je crois qu'on l'a montré dans le film, mais pour autant, on pouvait se réconcilier. On pouvait aller dîner ensemble ensuite, on pouvait se prendre dans les bras. Je suis frappé par ça. Il s'agit pas de revenir en arrière, hein, mais je suis frappé par le fait que nous n'avons peut-être pas encore totalement trouvé une forme contemporaine des réseaux sociaux, du rassemblement des corps et de la politique par les corps. Et peut-être que quelque chose s'essayait de ce côté-là à Nuit Debout, par exemple. J'avais été sidéré, en fait, par le désir que les gens avaient eu de se rassembler, justement, pour discuter. Alors même qu'ils disposaient des réseaux sociaux et alors même que Nuit Debout était branché directement sur les réseaux sociaux. Il y avait comme ça une façon, et d'ailleurs c'était intéressant de voir que la place de la République on était dans la foulée des attentats de novembre, était devenue une sorte de mausolée officielle. Et il y avait une façon de dire, nous avons autre chose à faire de nos corps et de nos morts que ce qui nous est demandé et de ce qui nous est proposé.
Vous en avez fait un film et vous parlez de désirs, Philippe Mangeau. Est-ce qu'un film est susceptible de produire des désirs ?
Ah oui, ça j'en suis absolument persuadé. Alors là vraiment, un film, un livre, les œuvres produisent des désirs. Enfin, d'une manière générale, l'art produit des désirs, c'est le vrai sujet. Hein, c'est le vrai sujet. Alors, on revient en un sens à l'Observatoire des Passions, parce que je suis en train de travailler avec le musée sur l'hypothèse d'une visite
passionnelle.
Le musée du Centre Pompidou. Sur l'hypothèse d'une visite passionnelle du musée. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le musée un soir, et je demanderai à des conservateurs, des restaurateurs, je parle au masculin, je devrais dire des conservateurs, des conservatrices, des restaurateurs, des restauratrices.
Plus facile à l'écrire.
Des gardiens, des gardiennes, oui, absolument. Des critiques, d'identifier dans les collections des œuvres avec lesquelles ils ou elles entretiennent un rapport passionnel, que ce rapport passionnel soit un rapport d'amitié ou au contraire un rapport d'hostilité. Et de parler des œuvres en première personne, c'est-à-dire d'organiser une sorte de visite comme ça, qui est... Comment un restaurateur d'art, d'œuvre, aime un tableau, par exemple ? Qu'est-ce que c'est que de vivre toute la journée quand on est gardien ou gardienne avec un tableau ? Je crois que les œuvres, et c'est là qu'elles deviennent intéressantes, c'est le vrai sujet, à mon sens, de l'art, les œuvres provoquent des passions au sens large, c'est-à-dire tout à la fois des désirs, des joies, de la colère à l'occasion, et c'est tant mieux, de la haine, du ressentiment, etc.
Philippe Mangeau, ce musée imaginaire dont vous nous avez parlé, qui prendra sa place au Centre Pompidou, ce sera quand ça ?
Eh bien ça sera à la rentrée de septembre ou d'octobre.
Avant cela, il y aura d'autres séances de ce magazine parlé qu'est l'Observatoire des Passions, puisque c'est un magazine mensuel.
Absolument.
Le prochain épisode de ce magazine parlé au Centre Pompidou, ça sera mercredi prochain,
oui.
À 19h, autour donc du thème des passions tristes, dans le cadre de la manifestation mai 68, Assemblée Générale du Centre Pompidou, qui commence aujourd'hui jusqu'au 21 mai. Quels seront vos invités ce jour-là, en dehors de Romain Goupil ?
Elena Ojam, de Nuit Debout, et Bassem Youssri, qui a fait la révolution égyptienne.
Et je rappelle que nous-mêmes, France Culture, continuons ce week-end exceptionnel du festival Imagine au Centre Pompidou, avec notamment cet après-midi, en direct du Centre Pompidou, de 14h à 18h, un marathon radiophonique sur les révolutions culturelles entre 68 et 2018, comparaison des deux moments, d'un point de vue de la création, d'un point de vue des idées. Ça sera demain. Aujourd'hui donc, 4h en direct par Mathilde Serrel et Antoine Guillot, avec de très nombreux invités. Évidemment, vous êtes invités à rejoindre le Centre Pompidou si vous le pouvez cet après-midi. Merci beaucoup à vous, Philippe Mangeau. J'aimerais juste qu'on se quitte par une phrase de votre ami, le philosophe Pierre Zawi, puisqu'il était très très difficile de savoir comment vous présenter. Eh bien, je vais terminer avec ces mots à lui. Il vous présente de la façon suivante. Il dit: Philippe Mangeau assume les trois métamorphoses de l'esprit du Zarathoustra de Nietzsche. Il est le chameau qui porte les valeurs anciennes. Il est aussi le lion qui les renverse. Et il est l'enfant qui joue, construit, bricole, invente du nouveau.
C'est assez beau. Vous avez décidé de m'intimider, là, pour
non, on s'arrête là-dessus, je vous demande évidemment pas de réaction. Non, mais en revanche, il dit que vous jouez aussi du piano, et vous nous avez dit que vous ne voudriez pas mourir avant d'avoir pu jouer ce qu'on va écouter. C'est le deuxième mouvement de la sonate Hammerklavier de Beethoven, joué ici par Paulini.